Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. La Transat Jacques Vabre à l'honneur dans ce magazine. Transat en double, dont le départ sera donné le week-end prochain du Havre. Cap sur Salvador de Bahia au Brésil. Avec 60 équipages sur la ligne de départ. On en parle avec Yves Rollet-Tapon et Amélie Bonté, journaliste à France Bleu Normandie. Avec notamment le portrait de deux frères amateurs.
Quand on est passionné de voile, ça pique un peu de voir les copains larguer les amarres tous les deux ans. Et puis on s'est dit à un moment, l'âge progressant également, peut-être que c'est notre tour maintenant.
Une fois n'est pas coutume, nous partons dans les terres dans ce magazine, en Mayenne, où un salon de coiffure recycle les cheveux qui servent à faire barrage aux hydrocarbures.
Imaginez-vous un bas nylon dans lequel on remplisse des cheveux. Donc tous les cheveux sont très très serrés. Il faut savoir qu'un kilo de cheveux permet de pomper 8 litres de pétrole.
Nous retrouverons nos chroniqueurs. Gwen de Jaffry, vous allez nous parler d'une régate qui s'est courue sur l'Erdre en Loire-Atlantique, c'était mi-septembre.
La coupe Gaston Grenier qui réunissait des 12 mètres carrés du Havre.
Et Jean-Michel Guénier, vous allez nous donner des conseils pour ceux qui ont l'intention d'acheter un bateau d'occasion.
Et oui, parce que on a peut-être envie d'acheter un bateau d'occasion, mais avant d'acheter le bateau, avant de passer à l'acte, il faut se poser quelques questions. Donc je vais essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions.
A tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Yves Rollet-Tapon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Bleu Normandie. C'est déjà la 14e édition de cette grande course au large, qui a changé d'ailleurs plusieurs fois de destination, mais toujours avec un même parfum en tête, Yves Rollet.
Oui, celui du café, bien sûr, la route du café, en souvenir bien de ces voiliers qui, au XVIIIe siècle, ramenaient le café d'Amérique du Sud vers le port du Havre. Alors, il y a eu au départ Carthagène en Colombie pour cette Transat Jacques Vabre, puis Puerto Limón au Costa Rica, Itajaí au Brésil, et cette année, toujours le Brésil, mais Salvador de Bahia, comme il y a deux ans. En 2017, c'est Thomas Coville et Jean-Luc Nélias qui l'avaient emporté. Ils avaient mis 7 jours seulement pour avaler, à bord de leur trimaran ultime Sodebo, les 4350 000, soit 7 000 km.
À bord de leur ultime Sodebo, justement à propos d'ultime, il n'y aura pas d'ultime sur la ligne de départ cette année, Yves Rollet.
Non, seulement trois catégories, les grands monocoques Imoca, ceux que nous reverrons dans un an au départ du Vendée Globe, les trimarans multi 50 et puis les plus petits monocoques de la classe 40. Alors il y a des noms connus, bien sûr Jérôme, les habitués, Armel Lecléache, dernier vainqueur du Vendée Globe, il sera cette fois Armel co-skipper de Clarisse Kremer, on attend aussi Jérémy Bayou, Alex Thompson, le local de l'étape au Havre, Charlie Dalin prend pour la première fois le départ de cette course qu'il a connue enfant chez lui, associé Dalin à un vieux briscard, Yann Eliès. En classe 40, citons le benjamin de la course, Basile Bourgnon, le fils de Laurent Bourgnon, disparu en 2015 et âgé de seulement 17 ans. Dans cette même catégorie, un habitué des pontons havrais, Quito de Pavan. Quito de Pavan, il a trouvé in extremis un nouveau bateau après avoir cassé son mât. Et puis, un duo de japonais, c'est assez rare, sur la Transat Jacques Vabre. Hiroshi Kitada et Takeshi Hara vont participer pour la première fois à cette Transat.
Et félicitations pour la prononciation, Yves Rollet. Un mot sur le parcours pour terminer ?
Après le départ du Havre, eh bien les skippers devront remonter, passer une bouée obligatoire au large des falaises d'Étretat. Ça va permettre eh bien au public amassé le long de la côte eh bien de voir les bateaux le plus longtemps possible. Et puis après Étretat, eh bien ils vont redescendre l'Atlantique vers Salvador de Bahia, donc au Brésil. Il faudra vite tenter d'attraper les alizés pour filer vers les îles Canaries, puis franchir au niveau de l'équateur le redoutable poteau noir, une zone sans vent. Et là, eh bien on le sait, il ne suffit pas d'avoir un bon bateau et de bons skipper, il faudra faire les bons choix, les bons changements tactiques en fonction de la météo notamment. Le premier devra mettre environ 10 jours pour atteindre Salvador.
Et on vous retrouvera d'ailleurs pour l'arrivée à Salvador de Bahia au Brésil, Yves Rollet-Tapon. Nous allons continuer à parler dans quelques instants de cette Transat Jacques Vabre qui va partir le week-end prochain du Havre avec Amélie Bonté. Yves Rollet, obligado.
À bientôt.
Oh, oh, oh. posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar.
De la musique brésilienne avec Seu Jorge pour se mettre dans l'ambiance de cette Transat Jacques Vabre dont on va reparler dans un instant. Ce sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va nous parler d'une régate qui s'est courue sur l'Erdre en Loire-Atlantique, c'était le mois dernier.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Elle s'appelle la Coupe Gaston Grenier.
Alors Gaston Grenier, qui c'est ? C'est un architecte, architecte naval. Début du siècle dernier. En 1924 précisément, Gaston Grenier va inventer un type de bateau qu'on va appeler le 12 mètres carrés du Havre. 12 mètres carrés, pourquoi ? Parce que c'est sa surface de voilure, même s'il en a un peu plus, mais il y a des règles de calcul un peu compliquées, on ne va pas rentrer là-dedans. Du Havre, parce que c'est une série qui est destinée essentiellement au plan d'eau du Havre. Et c'est une série dite à restriction. C'est-à-dire que les bateaux, ils sont soit monotypes, dans ce cas-là, ce sont tous les mêmes, soit c'est une jauge libre, on fait ce qu'on veut en quelque sorte, ou à restriction, on doit respecter un certain cadre. C'est le cas du 12 mètres carrés du Havre, qui doit respecter notamment cette fameuse surface de voilure à 12 mètres carrés. C'est un bateau populaire pour l'époque. Aujourd'hui, on ne serait pas dans cette catégorie-là, mais à l'époque, bateau populaire. Et il va y en avoir à peu près 60 de construits jusqu'à la fin des années 40. Des bateaux qui vont de 5,60 mètres à 8 mètres de long, qui ont des formes assez similaires, pour qui connaît un peu la plaisance, les bateaux, les 6 mètres J, les 8 mètres J, ces bateaux un peu emblématiques. Des belles régates des années 30, on est dans ce registre-là, et c'est une flottille qui va pas rester au Havre. On va en trouver au Havre, bien entendu, on va en trouver aussi beaucoup en région parisienne, vers Nogent, vers Morsan, par exemple. Dans les années 60, arrivée de la plaisance en polyester, toutes ces séries en bois vont peu à peu disparaître parce que ça coûte cher à l'entretien, parce que le polyester, c'est le matériau révolutionnaire de l'époque. Début des années 90, on va avoir une poignée de passionnés qui s'y intéressent. Ils vont récupérer des bateaux, ils vont les restaurer, mais ils vont restaurer une partie de ces 60 bateaux. Plus récemment, début 2010, on a d'autres passionnés qui vont cette fois-ci s'intéresser pour renouveler la série, soit non plus désormais en restaurant, mais en construisant des unités neuves. Deux catégories, classiques, modernes. Les modernes, malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas eu de reconstruits. Les classiques, en revanche, il y en a, notamment avec un architecte, Bruno Janson. C'est un nom qui ne vous dit rien, c'est normal. Bruno Janson a fait sa carrière dans l'industrie. En revanche, le nom de son grand-père vous dira certainement quelque chose. Jean Knocker, qui a notamment conçu le bateau Josua, le bateau de Moitessier. Une fois en retraite, Bruno Janson a voulu un peu renouer avec ce métier de son grand-père en concevant des 12 mètres carrés du Havre parce que c'est une série qui l'intéressait. Et il a fait plusieurs plans dont plusieurs exemplaires ont été construits en bois moderne. Donc c'est du bois mais avec beaucoup de colle. C'est des bateaux qui nécessitent moins d'entretien, qui sont plus faciles à construire. Et c'est notamment 5 de ces bateaux qu'on a pu voir sur l'Erdre au mois de septembre lors de la Coupe Gaston Grenier avec 2 classiques. Ce qui est intéressant, il y avait du petit temps. L'Erdre, donc la rivière au nord de Nantes, est un plan d'eau compliqué parce que justement tous les plans d'eau abrités comme ça, il y a des vents qui tournent beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait 2 bateaux classiques, donc construits dans les années 30, qui finalement ont donné beaucoup de fil à retordre aux petits nouveaux.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Retour sur la Transat Jacques Vabre, Transat en double, dont le départ sera donné le week-end prochain du Havre, avec vous, Amélie Bonté, correspondante de France Bleu au Havre. Après 14 éditions, qu'est-ce qui explique le succès de cet événement, Amélie ?
Peut-être d'abord les skippers. Ils seront 120 à prendre le départ cette année. Ils ont beau être des sportifs de haut niveau, ils restent abordables pour le public. On peut visiter leur bateau, leur poser des questions. Ils vont même faire un jogging avec les Havrais mercredi prochain. Gilles Dagautier est l'organisateur de la Transat.
On est toujours assez humble par rapport à la mer. mer. Les gens qui se baladeront sur les quais du bassin Paul-Vatine rencontreront des skippers, ils les trouveront, je pense, et j'en suis sûr, tout à fait accessibles.
La Transat, une histoire qui dure entre la ville du Havre et le partenaire Jacques Vabre depuis 1993. Pour Gilda Gauthier, c'est la clé du succès.
84% des Français connaissent le nom Transat Jacques Vabre. Donc cette notoriété-là est amenée par la durée, par le temps, et c'est ce qui explique, je crois, en grande partie le succès de l'événement.
Une grande course de voile, mais aussi un événement familial. Pas étonnant, d'après Sébastien Tasserie, l'adjoint au maire en charge des sports.
C'est vraiment une famille qui s'est créée et ça se ressent dans l'ensemble de l'organisation et ça va jusqu'aux skippers qui le ressentent en disant on y va parce que c'est une ambiance particulière.
Et un savoir-faire havrais qui s'exporte, c'est aussi la fierté de la municipalité.
Si on parle de grands événements de Rouen comme l'Armada, nous avons des gens de la Transat Jacques Vabre qui travaillent sur la route du Rhum et qui ont fait leur expérience sur la Transat Jacques Vabre et qui ensuite vont travailler sur ces grands événements. Ils ont après l'estampille d'avoir travaillé pour la Transat Jacques Vabre et ça, ça parle.
Enfin, dernier ingrédient du succès, l'événement est gratuit. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Le village de la course est déjà ouvert, un village qui est aussi un lieu de rencontre pour les entreprises, car la Transat, c'est aussi du business, Amélie.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les retombées économiques de la Transat, 7 millions d'euros pour le territoire havrais, pour un coût d'organisation de 3 millions d'euros. On croisera des passionnés de voile, des touristes, des familles qui consomment au Havre pendant ces 10 jours de village. Les hôtels sont pleins, les réservations Airbnb explosent, plus 189% pour les vacances scolaires. La Transat y est bien entendu pour quelque chose la première semaine. Mais la Transat, c'est aussi une belle vitrine pour les entreprises normandes qui, comme d'habitude, disposent de plusieurs espaces business au sein du village, des salons, des loges, un club entreprise ou encore un bistrot des chefs. Pour faire des affaires, c'est l'endroit où il faut être. D'ailleurs, la région Normandie l'a bien compris. Récent partenaire de l'événement, elle a investi 80 000 euros en 2017. Cette année, la participation monte à 300 000 euros. Il y a 2 ans, 570 000 visiteurs ont arpenté les allées autour du bassin Paul-Vatine. On en attend 600 000 cette année.
Parmi les 60 équipages qui vont prendre le départ, un duo de frères amateurs, les frères Courbon, dont vous nous dressez le portrait, Amélie.
Et dans le duo, il y a Renaud. Il a fait sa première régate à 10 ans. Aujourd'hui, ses cheveux sont poivre et sel, mais son regard pétillant comme un gamin.
J'ai 46 ans, je suis avocat, père de famille. Première Transat Jacques Vabre que je vais faire avec mon frère Yves.
Ils ont pris la décision en fin d'année dernière pour ses passionnés de voile. Cette année, direction le Brésil.
Quand on est passionné de voile, ça pique un peu de voir les copains larguer les amarres tous les 2 ans. Et puis on s'est dit à un moment, l'âge progressant également, peut-être que c'est notre tour maintenant.
En plus, bien sûr, de leur métier de tous les jours, ils ont donc mis en place, comme le dit Renaud Courbon, une micro-entreprise pour
louer le bateau, ramener le bateau également parce qu'on le fait ramener par cargo, et les voiles également. C'est un budget d'environ 150 000 euros.
Alors forcément, quand on part entre frangins, il faut bien se connaître, mais ça n'effraie pas Renaud.
On sait qu'on pourra, le cas échéant, sur certains moments un peu chauds, s'engueuler à bord. Hein. Donc on se connaît, mais on sait qu'on s'adore.
Depuis le début de l'aventure, les skippers amateurs font une préparation physique, de la course à pied, des exercices à la maison. Ils sont contrôlés par un cardiologue et sont donc en pleine forme. Aujourd'hui, l'état d'esprit est donc au beau fixe.
Un stress positif qui est de l'impatience. Quoi. On a hâte de larguer les amarres. Ce moment-là sera déjà un espèce de premier aboutissement.
Les frères Courbon seront alors uniquement concentrés sur leur traversée de l'Atlantique.
Alors l'objectif premier, c'est d'arriver, d'éviter les casses. Et après, effectivement, on s'est fixé comme objectif de tenter d'arriver dans le premier tiers.
Merci Amélie Bonté, correspondante de France Bleu au Havre. Départ de cette Transat Jacques Vabre prévu le dimanche 27 octobre à 13h15. Un événement à suivre sur France Bleu, partenaire de l'événement.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Attention, vous risquez de les confondre avec un sac plastique échoué sur la plage et de vous brûler en les touchant. Les physalies, semblables à des méduses et connues sous le nom de vessies de la mer, sont arrivées depuis quelques jours sur les côtes du Finistère. D'abord sur le sud du département, elles remontent progressivement vers le nord en suivant les courants chauds. Le reportage à Port-Spoder dans le nord Finistère, donc de Morgane Euclin-Refait.
De longs filaments de plusieurs mètres, très urticants, et un flotteur translucide, presque semblable à un sac plastique. La présence de quelques physalies n'inquiète pas Eric, un commerçant.
Mais parler de ça, qu'il fallait faire attention, mais c'est pas ça, ça nous saute pas dessus, hein. Ça passe à côté, on évite, et puis c'est tout. Hein. Pour le moment, j'ai plus de problème.
Mais le maire Yves Robin les garde à l'œil avec quelques habitants. L'an dernier, il y en a eu tellement qu'il a fallu interdire la baignade et les activités nautiques.
Pour l'instant, on en a repéré quelques-unes simplement sur deux plage de la commune. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine. J'ai fait mettre sur notre page Facebook de la commune ainsi que sur Twitter une photo avec un avertissement demandant aux gens de ne pas toucher à ces bestioles qui peuvent être très dangereuses même lorsqu'elles sont mortes, voire un petit peu desséchées.
Sur les personnes fragiles, ces physalies présentent en effet des risques majeurs, explique Manon Fouché de l'Océanopolis de Brest.
On va avoir généralement des grosses brûlures problèmes respiratoires, voire arrêt cardiaque. Donc il ne faut absolument pas les toucher, même si elles sont échouées, mortes sur la plage. Le mieux, c'est de les recouvrir avec du sable sec, en fait.
Ça les fait se désagréger plus vite et ça limite donc le danger.
Jean-Michel Guénier vous livre ses conseils maintenant si vous avez l'intention d'acheter un bateau.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
En l'occurrence, un bateau d'occasion.
Et oui, vous rêvez d'un bateau, très bien. Mais avant de vous lancer dans l'achat de celui-ci, il convient que vous vous posiez un certain nombre de questions. Tout d'abord, quel programme ? Un grand bateau procure plus de confort, plus de stabilité, plus d'espace à vivre. Mais si votre objectif se limite à des sorties à la journée, un bateau plus petit fera peut-être l'affaire avec à la clé moins de contraintes et un coût d'entretien moindre. Voile ou moteur ? Naturellement, tout dépend aussi de vos compétences, mais rappelez-vous que pour piloter un bateau à moteur, un permis est nécessaire, ce qui n'est pas le cas pour la voile. Où vais-je me mettre ce bateau ? Alors si c'est un bateau sur remorque que vous pouvez mettre à l'eau facilement, c'est plus simple. Toutefois, si vous n'avez pas la place de stocker la remorque dans votre jardin, et s'il existe bien des parcs à bateaux et des chantiers qui proposent ce service, renseignez-vous sur leur place disponible et sur le coût. Si c'est un bateau qui nécessite une place dans un port de plaisance ou un mouillage, là encore, il est préférable de s'assurer en amont que l'on va pouvoir disposer d'un poste d'amarrage. Souvenez-vous que dans les endroits les plus convoités, les ports de plaisance sont souvent des listes d'attente et que sur un mouillage, la plupart du temps, il faut tirer le bateau au sec durant l'hiver. Le prix ensuite, vous vous êtes fixé un budget, bah très bien, mais tenez compte de tout ce que vous allez devoir ajouter sur le bateau après l'achat. De nouvelles voiles, parce que certaines sont fatiguées, changer le radeau, renouveler l'électronique de bord, réviser le moteur, sans compter l'entretien courant, l'anti-fouling, le coût de la place de port, l'assurance, le droit de francisation s'il s'agit d'un assez gros bateau ou fortement motorisé. Ayez ensuite une idée du marché, renseignez-vous bien sur le prix des bateaux similaires à celui que vous convoitez, étudiez les annonces, élargissez votre spectre de recherche. Enfin, le jour venu, à moins que vous ne soyez un expert, auquel cas ma chronique ne vous est d'aucune utilité, faites-vous accompagner de quelqu'un qui dispose d'une expérience complémentaire à la vôtre, ou encore mieux d'un expert maritime. Deux paires d'yeux valent toujours mieux qu'une seule, et le diable se cache toujours dans les détails. N'hésitez pas à faire parler le vendeur, les passionnés sont toujours bavards et on découvre toujours de précieux indices au détour d'une conversation.
On vous retrouve dans un instant, Jean-Michel, pour nous présenter un navigateur.
France Bleu, bienvenue à bord.
Et si vos cheveux empêchaient une marée noire ? Une fois n'est pas coutume, nous partons dans les terres, dans ce magazine, en Mayenne, à Courcité précisément, où le salon de coiffure Alter Ego récupère les cheveux de ses clients pour les transmettre à une association qui leur donne une deuxième vie. Le reportage de Charlotte Coutard.
Avant, ces mèches coupées finissaient toutes à la poubelle, mais depuis 4 mois, ses cheveux sont recyclés. Nelly Gilbert est la coiffeuse en chef.
On trie les déchets au salon depuis plusieurs années. Il n'y avait qu'une seule chose qu'on n'arrivait pas à recycler au salon, c'était les cheveux. Donc plusieurs kilos de cheveux partaient tous les mois à la poubelle. Et ça, moi, là, ça me tenait à cœur de pouvoir recycler maintenant la totalité de mes déchets.
Désormais fini le gaspillage, Nelly a découvert sur les réseaux sociaux l'association Coiffeur Juste, basée en Provence. Elle ramasse les cheveux coupés de ses clients et remplit des sacs de 2 kilos chacun.
Là, on est à notre cinquième sac. C'est essentiellement des centres d'handicapés qui travaillent pour ce recyclage. Voilà, on est aussi fiers de pouvoir tendre la main à ces gens pour la bonne cause.
Les travailleurs fabriquent notamment des filtres à hydrocarbures anti-marée noire.
Imaginez-vous un bas nylon dans lequel on remplisse des cheveux. Donc tous les cheveux sont très très serrés. Il faut savoir qu'un kilo de cheveux permet de pomper 8 litres de pétrole. Donc le cheveu a un pouvoir très très absorbant. Et ensuite, ces boudins sont disposés en chaîne, hein, comme une guirlande, donc soit dans les ports ou si vous voulez délimiter sur des plages. Ça a également le pouvoir d'absorber tout ce qui est crème solaire.
Je vais faire une coupe spéciale hydrocarbure. On va tout enlever.
Vincent vient au salon une fois par mois et il est ravi de donner une partie de son corps pour la bonne cause.
Ben voilà, une bonne initiative, une bonne idée, et une belle idée d'ailleurs. On ne peut pas dire que ce n'est pas dans l'air du temps de faire du recyclage. Et donc, si ça peut aller jusqu'aux cheveux, ça peut être que bien.
Et les employés du salon comme Mélanie ont totalement adhéré au projet.
Ben, on avance pour la planète. Donc, les cheveux, le tri pour les produits, enfin, c'est un tout, quoi. Chaque petite chose, on avance pour sauver notre planète.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel, vous nous présentez Robert Territéo.
Robert Territéo, Aujourd'hui âgé de 53 ans, Robert Territeo, né en Nouvelle-Calédonie, est l'un des plus fameux champions de planche à voile, plutôt de funboard, devrais-je dire. 7 fois champion de France, 3 fois champion du monde indoor, il vit aujourd'hui à Hawaï et fabrique des stand-up paddles. Dans les années 80 et 90, il était l'une des figures les plus emblématiques du circuit professionnel de funboard, raflant des dizaines de grands prix et une véritable idole pour les jeunes.
Merci Jean-Michel Gagné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. Au revoir.